Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, moi ça va bien, et toi ?
Ça va bien, ça va bien. Est-ce que ça parle du nez un peu ?
Ça parle un peu du nez, mais bon, mi-octobre, hein, c'est de saison, j'ai envie de dire.
Non. Moi ça va vachement mieux, parce que la semaine dernière, j'étais encore un peu dans le mal.
Ah, on a reçu des lettres d'inquiétude, hein, les gens se demandaient.
Non, mais j'ai eu deux émissions comme ça, où t'es encore un peu malade. La première, c'était l'émission, je sais pas si tu te rappelles, sur Dakar, le fameux jeu Dakar.
Notre meilleure émission.
Et vraiment, j'ai des souvenirs de cette émission, où je parle du désert et tout, et moi j'ai chaud. Je me suis jamais rematé à la vidéo et tout, ouais. Mais vraiment, j'étais pas bien. Et la semaine dernière,
on sent que t'es en forme.
Patate, là. Au programme de cette semaine, c'est le retour du top 10 all-time, c'est pour ça que je suis chaud.
Oui.
Le fil rouge que je tisse depuis 3 ans déjà, et à l'occasion de la sortie de Baten Kaitos 1 et 2 Remaster sur Switch, on va parler de Baten Kaitos, les ailes éternelles et l'océan oublié, c'est pas stylé.
Habile.
Puis dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur un jeu qui a beaucoup fait parler lors de sa publication il y a 3 ans déjà. Ce jeu, c'est Cyberpunk 2077 et on en cause aujourd'hui parce que son gros DLC scénarisé Phantom Liberty est sorti il y a peu.
Attention, DLC, tu vas te faire engueuler.
Pourquoi ?
C'est plus une extension. Oh là. Là, on va en parler.
Désolé, ce n'est qu'un pitch de présentation, je vais me dire la vérité après. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission 105 dans laquelle nous avions fait un point sur la next gen, et même si elle n'est plus si next cette gen, elle avance un petit peu avec une nouvelle mouture de la PS5 Slim. Nico, qu'est-ce qu'il en est ?
Comme prévu par les rumeurs, hein, c'est que là les rumeurs qui entourent Sony voient généralement assez juste, hein. Ouais. On a eu donc cette PS5 Slim dévoilée. En gros, c'est quoi, 30% de volume en moins au niveau de la machine, donc quand même un gain plutôt cool. Un lecteur Blu-ray potentiellement amovible, hein, si t'achètes la version des maths, tu pourras acheter ton lecteur à côté. Pas d'augmentation de puissance ou de prix. Le SSD légèrement boosté, on passe à 1 Tera au lieu des 825 habituels. Et Sony a droppé ça juste avant les fêtes, un petit peu comme ça, sur un post Twitter. Alors la date de sortie est un petit peu nébuleuse, on parle de novembre à peu près aux États-Unis, puis en suivant dans le reste du monde, donc s'il faut ça arrivera pas avant janvier chez nous, hein, c'est pas très très clair.
Bizarre ça.
Ouais, c'est un petit peu bizarre, et ce modèle-là donc est amené à devenir le modèle de référence une fois que celui actuel les stocks seront écoulés. 2-3 remarques là-dessus, c'est que déjà le prix du lecteur Blu-ray à part dont je parlais, c'est 120 boules chez nous. Je pense qu'il est volontairement boosté pour les gens regarder comme c'est cher d'avoir du physique, donc rester sur le démat plutôt c'est plus cool. L'aspect de la console, ça c'est vraiment les goûts, les couleurs. Déjà, moi, la PS5 de base, je suis pas ultra fan. Celle-ci, je trouve, fait vraiment plastoc. On dirait, je trouve, tu sais, les jouets porte-clés pour les enfants. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
J'ai jamais été fan du design de la PS5. Après, elle est plus petite, plus fine, donc de fait, je la trouve quand même un peu plus élégante, un peu plus peut rentrer en harmonie peut-être avec le salon. Après, pour moi, la PS5 n'existe pas. Elle est à l'horizontale derrière
cachée,
ma télé.
Ouais, cachée
donc pour moi,
télé.
Vraiment.
Par contre, justement, si tu veux la tenir debout, faudra acheter le socle maintenant vendu séparément à 30 boules. C'est un peu abusé, mais c'est comme ça. Et on l'a dit, toutes les rumeurs se vérifient, donc il y a de très fortes chances que fin d'année prochaine, on ait droit à la fameuse PS5 Pro, qui était là aussi dans ce batch de rumeurs. Sony poursuit un peu son cheminement de la PS4, hein, donc sur ces modèles de machines, et c'est quand même le troisième gros hardware de l'année pour Sony, après le PSVR 2 et le PlayStation Portal. Ouais. Donc ça charbonne, ça construit, ça c'est fait clair. Tourner les usines.
Après, je pense que tu vois, comme pour le Portal, c'est Portal, hein, c'est ça, l'accessoire, et justement, accessoire, Sony met pas l'emphase dessus, en conf, ou même fait pas, tu sais, branle-bas de combat pour la sortie, pour justement vraiment dire que c'est un accessoire. PSVR 2, ça je l'explique pas. En revanche, je sais pas ce qu'il en est. En revanche, sur la PS5 Slim, peut-être une colle, désolé. Est-ce que ça s'appelle vraiment PS5 Slim ?
Non.
Non.
Même eux n'en parlent pas comme une Slim. Voilà. Ils te disent juste, elle est plus compacte, plus machin.
Je pense vraiment que c'est à dessein qu'ils ont fait un lancement en catimini parce que c'est tout simplement, ils substituent la nouvelle version de la PS5 à l'ancienne. Tu l'as dit, dès que les stocks précédents vont terminer, elles vont la remplacer. En fait, pour Sony, ce qu'ils veulent véhiculer en image pour le public, c'est pas spécialement une nouvelle console, c'est une continuité.
Oui.
Et puis même si vous l'avez pas remarqué, c'est pas grave.
Surtout que vu que le prix ne bouge pas et que la puissance technique est la même, t'as pas l'argument massue qui se ferait dire, la nouvelle PS5 plus puissante ou moins chère.
Il y a un petit peu plus de mémoire.
Ouais.
Ça, on est sur 1 Tera là. Donc, pour moi, je pense qu'ils sont un petit peu, un petit peu cachés, justement pour faire une continuité plus fluide. Deuxième retour sur le lancement d'EA FC 24, qui a fait lui aussi pas mal de bruit.
C'était l'un de nos enjeux de leur entrée dans l'émission 114, hein, où on justement se posait un peu les questions, qu'est-ce qui allait être les grands enjeux de cette rentrée 2024. Et ça semble être un pari réussi pour Electronic Arts. En tout cas, en ce qui concerne le basculement des joueurs FIFA vers cette mouture, donc sans la licence FIFA, c'était un peu la question qui se posait. Et on parle de 11,3 millions de joueurs déjà actifs sur le jeu, donc une hausse de 20% par rapport à FIFA 23, qui, on rappelle, FIFA 23 a été le FIFA de tous les records, qui s'est le plus vendu et tout. Donc le launch, en tout cas, l'info a l'air d'être passé auprès des joueurs. Faudra voir sur le long terme et tout, au niveau des ventes, ce que ça va donner.
Oui.
Mais en tout cas, là, ça a eu l'air de fonctionner pour Electronic Arts.
Donc Electronic Arts, fou de joie. La FIFA, peut-être un peu moins.
La FIFA, masse de seum, je pense.
Ouais, c'est clair. Mais là, si c'est vraiment le cas, ils ont réussi leur lancement et on verra sur le fil des mois. C'est l'un des plus beaux moves marketing, au global, parce que l'économie, elle est là pour
le million. Après, je pense que les 250 millions qu'ils devaient donner à la FIFA, ils ont dû dire on va transformer ça en budget com pour attraper le coup.
Bien sûr, mais je pense que les années précédentes, ils mettaient la max aussi sur FIFA, donc joli move. Hein,
Et si vous êtes joueur de FIFA, dites-nous, est-ce que c'est cool justement, est-ce qu'il est bien, parce que c'est vrai que nous on l'a pas du tout essayé. Est-ce que ça reste le même jeu avec juste un nom différent?
On reste fidèle à PES.
Oui, c'est pour ça qu'on a arrêté de jouer.
Allez, merci pour ces retours sur Nico. Je commence avec la première chronique qui va s'intéresser à Baten Keitos. C'est une chronique qui va rejoindre un petit peu le fil que je tisse sur la rubrique Top 10 All Time, rubrique qui est connue mondialement à présent.
Oui, hein.
Mais bon, pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes, je vais rapidement vous résumer le truc. Mon objectif ici, c'est de refaire mes 10 jeux préférés de la vie, ceci pour les confronter à mes souvenirs et à la réalité du marché du jeu vidéo actuel. L'idée, c'est aussi de faire évoluer ce top, de bouleverser ce qui pourrait être gravé dans le marbre, et peut-être de briser mes vieilles certitudes, ou de les consolider. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de porter un regard nouveau sur des jeux et des œuvres qu'on pense connaître par cœur. Nico, première question, est-ce que t'as remarqué que j'avais recyclé mon intro ?
Évidemment. Non, pas du tout, mais en même temps, si t'as 10 chroniques à faire, ça me paraît pratique.
J'avoue, celle-là, j'ai copié-collé. C'est ce que j'ai raconté au précédent épisode. Mais bon, j'espère que ça a un peu réexpliqué.
Je pense que personne s'est rendu compte.
Le concept. Alors, j'essaye à chaque fois un petit peu de lier à l'actualité ce Top 10 All Time, même parce que Red Alert, c'est quand même une émission d'actu, mais tu m'as toujours dit, mais on s'en fiche, parle de ce que tu veux. Mais bon, j'aime bien qu'il y ait quand même un rapport à l'actu. Il y a un remaster de Baten Keitos 1 et 2 qui est sorti il y a quelques semaines, donc vraiment...
Fallait pas le louper, celui-là.
Fallait pas le louper. Ouais, mais quand Chrono Cross est sorti, j'ai pas fait Chrono Trigger, je l'avais un peu raté.
C'est la merde.
Alors, avant la sortie de Baten Keitos 1 et 2 HD, il y avait des rumeurs. On y croyait, on n'y croyait pas, et franchement, c'était inespéré, et c'est finalement arrivé. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de remake et remaster de JRPG culte, on peut s'attendre à tout.
C'est un peu la belle époque.
C'est quand même pas...
On a eu un remake de Live Alive, donc oui, effectivement, on peut s'attendre à tout. Quoi.
Aujourd'hui, c'est vraiment dingue. Si t'en as un en tête, moi, c'est Xenogears que j'attends le plus, vraiment. Comme ça, je t'ai pas prévenu.
Ouais, non, je Xenogears, effectivement, ça peut être l'occasion.
Très stylé. Et ce sera l'occasion d'en reparler de Xenogears dans quelques instants. Vous allez voir. Alors, le remaster en lui-même, hein, il est très propre. HD, lisse, tout ça. Alors, le joueur vraiment pointilleux, on fait des comparos qui sont peut-être pas parfaits, même au niveau des voix, des cinématiques, il n'y en a pas 50 000. Hein. À l'époque, il y avait deux mini-DVD sur la GameCube. Ouais. Il n'y avait qu'une seule grosse cinématique par mini-DVD. C'est doublé en anglais. Bon, voilà, si vraiment les joueurs pointus vont dire « Ah, c'est pas parfait la compression et tout », moi, je vous le dis, je suis sincère, je n'en suis pas là. Moi, j'ai trouvé ça très propre. Juste sur ce remaster HD, trop bien, machin, attention, la localisation, Baten Keitos 2 n'était pas traduit à l'époque, parce qu'il n'est jamais sorti en Europe, mm-hmm. Il n'est toujours pas traduit dans sa mouture européenne.
Donc c'est la première fois qu'on peut avoir accès facilement à ce jeu.
La première fois.
Ça reste un événement. Quoi.
Mais dommage. Tu vois, Live Alive était quand même traduit. Après, la traduction, c'est un pôle de dépenses qui est gigantesque.
Surtout que, oui, en Europe, t'as au moins 6 langues minimum, donc...
Donc, aujourd'hui, dans cette rubrique Top 10 All Time, je vais donner 5 raisons de croire en Baten Keitos, et attention, la dernière va vous surprendre. Mais avant, rapidement, Baten Keitos, tu peux voir qu'est-ce que c'est, et pour ça, on va devoir remonter en 98, à la sortie de Xenogears. Champion du monde, évidemment, Zizou. Alors, après la sortie du jeu de Xenogears, évidemment, il y a une partie de l'équipe qui va choisir de quitter Square. Et quand je parle de cette partie de Square, je parle de Tetsuya Takahashi et de Yasuyuki One, deux personnes qui avaient un max de seum de s'être fait sabrer une grande partie du projet, en l'occurrence la seconde partie de Xenogears, qui a une mise en scène un peu différente par manque de thunes. À la suite de ça, ils vont créer un studio, Takahashi et One, Monolith Soft. Ils vont signer un deal d'édition avec Namco en 99, 99, pardon, pour ben, la sortie, enfin pour le, la mise en branle de Xenosaga épisode 1. 2001, fin de, du développement de Xenosaga, Yatakashi, ben lui, il a toujours des plans hein, sur la comète, il a toujours plusieurs jeux à produire pour raconter son histoire, donc lui, il va poursuivre avec Xenosaga épisode 2, mais Oné, lui, ben, il va proposer un autre projet à Namco, il va vouloir faire quelque chose d'autre, avec un projet, avec un nom de code qui s'appelle God Game. Qu'est-ce que c'est? C'est assez intriguant. Donc, la team autour de Oné sur ce nouveau jeu God Game, ben, elle est assez petite. Normal, chez Monolith, c'est partagé entre ben, Xenosaga et ce nouveau projet. Donc, il y a un besoin assez fort de backup. Et le jeu, il sera donc co-développé entre plusieurs studios. On parle ici de Monolith, qui va s'occuper de la partie artistique, de tout le design, et de Tricrescendo, une autre société, qui va s'occuper, elle, de la partie plus son OST et de tout ce qui est technique, tout ce qui est un petit peu programmation. Baten Kaitos, c'est un jeu qui est sorti sur GameCube, vous savez peut-être qu'on peut le zapper, et qui est sorti en 2003 au Japon. Voilà pour la remise un petit peu en contexte de ce qu'est Baten Kaitos. La première raison de croire en Baten Kaitos, donc voilà dans mon top 5, hein, c'est la singularité. C'est un jeu que vous n'avez jamais vu. Baten Kaitos, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui encore, est complètement unique. C'est vraiment... c'est singulier, c'est chelou, vous l'appelez comme vous voulez, c'est vraiment très caractérisé. Notamment grâce à son chara-design, qu'on pourrait nommer d'étrange, que l'on doit à Nakaba Higurashi, qui est l'épouse de Oné, donc okay. Qui était très proche. Alors, il y a quand même plusieurs rumeurs, c'est difficile de croiser ces informations. On dit d'elle aussi qu'elle était avant mangaka, elle travaillait aussi dans certaines illustrations de romans, de couvertures, tout ça. Après, tu peux aussi te trouver des sources qui disent qu'elle n'a travaillé que sur les deux Baten Kaitos et sur... alors c'est un DLC de Xenoblade 2, une lame, vous savez, les armes humanifiées que tu peux avoir dans Xenoblade, elle en a fait une. Okay. Donc elle aurait que trois tafs avec Namco justement. Donc c'est assez compliqué de savoir qui elle est, machin, ouais. Elle est très secrète.
C'est marrant parce que c'est un peu Takahashi justement qui bosse en binôme avec sa compagne Soraya Saga, qui elle aussi est très mystérieuse et qui n'a pas bossé sur d'autres projets sortis de ça. Quoi.
Ça se tient, mais on sait pas. Donc au global, vous voyez ce chara-design qui est vraiment chara-design qui est très très particulier. L'ambiance au global, elle se trouve vraiment très étrange, très singulière. On est dans quelque chose qui est entre le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est, je dirais. C'est chelou, mais en fait c'est trop ça. Essayez d'imaginer un design qui est entre les Balkans, la Chine et la Tunisie. Alors ça donne le Tibet et c'est exactement ça. Il y a des personnages avec des espadrilles qui sont très colorées. C'est particulier, je trouve, mais ce feeling tibétain, je sais pas, je trouve qu'il marche bien. Qu'est-ce que t'en penses de ce chara-design qui
Ouais, moi, c'est un jeu qui m'a toujours intrigué, que j'ai jamais fait, mais notamment par ce design, que soit, tu l'as dit, le chara-design artwork crayonné, autant que son rendu dans le jeu. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on voit un RPG, de se dire, ah là là, tel inspi, ça me rappelle tel truc. Ouais. Là, c'est le jeu où t'es un peu en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça lui donne, je trouve, un charme complètement fou, quoi.
Il y a aussi, en termes de singularité, le système de combat qui est unique. C'est quelque chose, un système qui est hybride entre le tour par tour classique en 3 contre 3 et un jeu de cartes. Un système, voilà, encore une fois, qu'on peut désigner comme chelou, mais très riche. Mais surtout, c'était un système, à l'époque, qui était nécessaire. En 2003, on était à la fin de l'âge d'or, hein, à mon sens, du JRPG. Et donc, chaque nouveau JRPG se confrontait à une concurrence assez folle. Et du coup, chaque nouveau JRPG avait un besoin absolument nécessaire et énorme de se démarquer. Et les cartes, les deck builders, aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose qu'on pourrait désigner de classique, de cliché.
Même il y a presque 20 ans, passé de mode tellement qu'il y en a eu. Quoi.
Exactement, tu vois, on a vu. Mais il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Baten Kaitos, il avait vraiment pas mal d'avance. On va le voir sur d'autres sujets, mais aussi sur son système et sur son impulsion de mettre des cartes dans son système de combat. Et dans son système plus de combat, c'est le système global de jeu qui tourne autour des cartes. Et donc, voilà rapidement ce qui peut en fait caractériser la singularité de Baten Kaitos. Et cette singularité, je trouve, ça le rend intemporel. C'est un jeu qui est réellement hors du temps et qui, aujourd'hui encore, si vous y intéressez, va vous surprendre. Donc, ça a du bon aussi, des fois, de faire différent, quoi.
Ouais, puis c'est la force aussi des jeux en 2D précalculés sur les décors qui vieillissent bien, quoi.
Donc, ouais, on est vraiment sur un JRPG à l'ancienne, avec des décors très beaux, très propres, en précalculé, ton petit personnage qui se balade en son sein. Raison numéro 2 de vous intéresser à Baten Kaitos, c'est le dépaysement. Alors, on l'a vu, on est sur un jeu qui est unique, mais avec un univers qui est unique aussi, très original, un jeu qui va vous faire voyager comme Jaja. Donc on est sur un postulat qui, vous allez dire, ouais, c'est un petit peu classique aussi, on est sur des îles flottantes, pas le dessert, attention, on est sur quelque chose qu'on pourrait dire que c'est un poncif du JRPG, on pense à Skies of Arcadia, on pense à... après Zelda, c'est pas un JRPG, on va dire, mais il y a eu Skyward Sword, TOTK, les îles flottantes.
Xenoblade, un peu aussi, plus ou moins
Ouais, c'est des géants, bon... c'est quelque chose qu'on peut avoir déjà vu, mais le truc avec Baton Kaito, c'est que malgré ce poncif, bah, le jeu, il reste hyper innovant. Et c'est justement cette contradiction entre classicisme et originalité qui va, en fait, un petit peu appuyer le caractère du jeu. Les décors de Baton Kaito vont s'articuler autour de 5 îles, 5 grandes îles qu'on va voyager, sur lesquelles on va voyager pendant le jeu. Et chacune, en fait, a sa propre culture, sa propre architecture, son écosystème qui est différent à chaque fois et pour chaque île, c'est très très travaillé, donc on se sent vraiment immergé et on sent, comme ces jeux, on en parlait dans le Sunstrike UX sur FF16 qui est disponible partout, cette bible, cet univers qui est écrit, qui existe quelque part mais qui n'est pas forcément illustré dans le jeu, on sent que là, vraiment, c'est un univers qui est extrêmement travaillé.
Après, c'est vrai que c'est un peu les RPG à l'ancienne où genre... un pays ou une ville, c'est deux écrans, quoi.
Ouais, alors
pour
ça,
nous, c'est en mode, bon là là, c'est truc de ouf.
C'est exactement ça. Hors des îles, je vais pas toutes vous les décrire, mais pour vous donner une idée, il y a l'île très nature, sans technologie, ville avec une grande ville qui est construite à même la roche. T'as la ville nuage, où t'as vraiment tout est articulé autour d'un grand nuage rose, avec même des cours d'eau qui sortent et qui rentrent, tu sais pas d'où. C'est vraiment ça très onirique. Et ma préférée, et tous ceux qui ont fait Baton Kaito, c'est évidemment leur préférée, c'est Myra, une île qui est tombée un petit peu dans une faille temporelle et donc qui va un peu développer plusieurs dimensions. Tu vas croiser dans cette île Myra la ville friandise, la ville pâte à modeler, la ville livre d'images pour enfants. Petit souci, et tu l'as déjà évoqué, c'est qu'on peut sentir un petit peu une frustration aujourd'hui en 2023, une frustration qu'on peut sentir dans des films récents sur le thème du multivers, comme Doctor Strange 2, dans lesquels, en fait, tu vois que traverser tous ces univers pendant quelques secondes et qui ne vont pas exploiter le plein potentiel du multivers. Alors là, cette île, voilà, qui est plongée dans cette faille temporelle, c'est un petit peu le cas. La ville gâteau, c'est un écran. Mmh. Un seul.
Donc, mais quel écran?
Après, il est culte. C'est-à-dire que vous l'avez tous.
Oui,
tous
même moi qui n'ai pas fait le jeu, je connais.
Donc, c'est ça. Mais bon, la fantaisie, la féerie, elle est encore là, quoi.
Oui, si c'est le prix à payer pour être dépaysé, comme tu as dit justement. Bon, et puis à l'époque, ça choquait personne,
non,
je pense.
Franchement, ça choquait personne. Et bah, ce qui va un petit peu aussi aider ce dépaysement, bah, c'est la beauté esthétique, la beauté formelle du jeu qui est complètement dingue, qui va nous aider à plonger réellement, ressentir tous ces paysages un petit peu étranges de Baton Kaito. T'as des couleurs, des plans. On a parlé de JRPG à l'ancienne. Chaque écran de jeu est complètement sublime, et on va avoir souvent l'envie de continuer, ne serait-ce que pour voir l'écran d'après, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous cache, parce que c'est vraiment superbe. Et le jeu, moi je dirais que c'est un petit peu une carte postale de l'imaginaire au niveau dépaysement. Franchement, j'ai rarement vu ça dans une vie de JRPG.
Ouais, et c'est vrai que tu parlais de la singularité. On disait que c'est un jeu qui est en représentation 2D, fond 2D, bitmap avec les personnes 3D. C'était presque un des derniers de son espèce aussi là-dessus, quoi.
À l'époque,
ça commençait déjà à basculer, voilà, ouais. En mode 3D, quoi, la FF10 et tout, quoi.
Carrément. Raison numéro 3 de vous intéresser à Baton Kaito, c'est son histoire. Alors, une histoire qui est vraiment excellente, surprenante, même si au départ, c'est assez classique. Je vous ai parlé de la direction artistique et de son basculement du classicisme au novateur. Là, c'est un petit peu pareil avec son histoire. Le pitch, c'est un héros qui veut se venger et qui va se retrouver submergé par une histoire qui le dépasse. Alors, dans la première partie du jeu, le but sera de récolter des artefacts maudits pour éviter la résurrection d'un dieu maléfique. Mais vous inquiétez pas, ça part très rapidement en vrille, avec encore une fois des thématiques classiques pour un JRPG, mais des thématiques hyper bien travaillées. Vraiment, ça parle, alors par exemple, ça parle d'espace-temps, de conflit entre magie, technologie, ça parle de création, création en général, ça parle du divin, ça brasse très large. Mais ce qui est au final étonnant, c'est que ça tape toujours juste, sans que le jeu ne s'éparpille. Et ça, franchement, c'est assez rare pour le souligner. Au niveau de la progression, il y a vraiment... progression dramatique, on va dire. Là, vous allez en prendre plein la gueule, si je puis dire. T'as le second, l'époque second CD avec beaucoup plus de liberté. Une fois que t'as visité chaque île, t'as le second CD là qui s'ouvre et là, ça part vraiment en vrille. C'est une histoire à twist. C'est pour ça que je vous en dis pas trop. C'est vraiment une histoire à twist avec un point d'orgue. Les personnages, les persos, ils sont vraiment très très bien écrits et c'est eux aussi qui n'ont rien de classique dans leur design, évidemment, en premier lieu, mais dans leur caractère, leur objectif. Il dépasse vraiment les stéréotypes de ce qu'on a pu voir dans le JRPG et ça va même au-delà. C'était un jeu qui était très en avance, on l'a vu avec son deck de cartes, mais c'est un jeu qui était aussi en avance pour son traitement des héros. Et aujourd'hui encore, en 2023, c'est le cas. Donc, niveau histoire, vous allez avoir de quoi faire sans souci.
Mystère mystérieux.
Je vous ai parlé du nom de code du jeu qui s'appelait God Game avant d'être titré Baton Kaito. Le héros du jeu s'appelle Kalas, mais nous ne jouons pas Kalas, en fait. Nous, on est une sorte de dame protectrice, une sorte de Jiminy Cricket qui va un petit peu souffler à l'oreille du héros ce qu'il doit faire. Héros qui va tout le temps nous solliciter, à nous, vraiment ben, joueurs pour le coup. Donc il y a un rapport aussi méta, mais je peux pas trop vous en dire parce que les twists sont aussi en lien avec ce rapport à la narration. Donc je trouve que c'est déjà assez intriguant, c'est assez original. Donc voilà pour l'histoire. Donc la raison numéro 3, elle vaut le coup. Raison numéro 4 de vous intéresser à Baten Kaitos, ce sont les combats. Donc les combats et son système au global, un système que je trouve vraiment génial en lui-même et qui n'a pas vieilli. Alors attention, c'est une petite subtilité, en lui-même le système n'a pas vieilli, on va y revenir. Donc dans Baten Kaitos, tout se joue avec des cartes, donc c'est les Magnus, et chaque chose dans Baten Kaitos est une carte, que ce soit les objets d'attaque, de défense, de soins, les objets de quête annexe. Par exemple, tu vas pouvoir capturer l'essence des choses. Je vous dis n'importe quoi, un personnage a besoin de feu pour faire sa cheminée. Tu vas, avec une carte neutre, tu as des cartes qui sont vierges, et tu vas aller chercher un feu, et tu vas capturer l'âme du feu, et tu vas aller retourner voir la personne en lui disant « bah tiens, fais ton feu de cheminée, mon ami ».
Pratique.
Il va te donner souvent d'autres cartes, parce que tout est articulé autour de ça.
La carte, merci.
Petite particularité assez intéressante, faut faire attention au temps qui passe. C'est-à-dire une carte, si tu as une carte de glace, par exemple avec un bloc de glace, ben si tu attends trop, ben il va se transformer en eau. Les fraises, si tu as une carte fraise, par exemple, qui est un objet de soin, si tu attends trop, elle va pourrir et ça ne sera plus un objet de soin, mais un objet d'attaque pour pouvoir empoisonner tes ennemis. Le lait se transforme en fromage. Alors, qu'est-ce qui est bon ? Alors, le lait, le fromage, est-ce que c'est un objet d'attaque ?
Les deux.
Ou le soin, je ne sais pas, à vous de voir. Il y a plus de 1000 cartes, quand même, sur Baten Kaitos 1, avec, évidemment, les variantes que je viens de vous donner, fruits, fruits pourris, etc. Donc, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement riche. On voit que, encore une fois, désolé de vous reparler de FF16, mais avec... aujourd'hui, c'est JRPG qui ont un besoin de fluidité, d'efficacité, de dynamisme. On avait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'époque, un besoin de singularité, de se distinguer et de faire des systèmes de combat qui étaient solides, riches. Et il fallait en mettre plein la gueule à tout le monde en disant « Mais regardez, tu peux faire ça, 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 ça. » C'était une autre époque.
Hein. Au risque de perdre les joueurs des fois à la Chrono Cross ou aller un peu loin peut-être.
Carrément, c'est un très très bon exemple ce Chrono Cross. Les cartes, alors je vous l'avais dit, c'est un système de jeu qui est global, qui va régir absolument tout, qui régit tout dans ce jeu. Des combats aux quêtes annexes et de la même manière, bah, il va aussi occuper à nous tout notre temps. Par exemple, avant les combats, on va devoir un petit peu préparer les decks de cartes. Donc chaque personnage a son deck de cartes attribué en fonction bah, du job, du statut, donc plutôt un healer, plutôt un magicien, etc. Et en fait, il va falloir à chaque fois distribuer les cartes en fonction de nos personnages et en misant toujours sur le fait qu'il y a une part de hasard. Quand tu arrives dans un combat, bah, ton deck de cartes est mélangé par le hasard et tu vas avoir une distribution de cartes, c'est pas forcément celle que tu veux. Donc, il va falloir vraiment tout le temps imaginer, réagir en fonction de ce facteur hasard qui n'est pas commun. Quand même.
Ouais, mais tu peux te faire du coup truander un combat si t'as une mauvaise pioche au départ.
Si t'as une mauvaise pioche, après tu peux aussi, plus t'avances dans le jeu, plus tu vois les subtilités, tu vas pouvoir utiliser des cartes qui servent à rien pour pouvoir aller chercher dans la pioche parce que tu sais qu'il te manque des trucs. Dans tous les cas, tu restes tout le temps très très actif pendant les combats, que ça soit en fait en attaque ou en défense, parce qu'il y a deux séquences, c'est-à-dire que dans chaque combat t'as la séquence d'attaque et la séquence de défense, et faut toujours être attentif, faire des bons choix. Faut prendre en compte par exemple les éléments, donc les éléments, le feu, la glace, la lumière, l'ombre et tout. Encore une fois, FF16 a oublié les éléments, là c'est en plein dedans. Je vous dis n'importe quoi, un élément, un ennemi va vous donner une attaque de feu, à toi de réagir avec une armure de glace ou un bouclier d'eau. Tu vois, ce genre de choses, il faut toujours être en réactif et en fait donner l'élément contraire à ce qui arrive en face de toi. Chaque carte a aussi un indice, un petit numéro dans un coin. Et donc là, pour optimiser les coups, ce qui est intéressant, c'est de faire des suites. Tu vas faire 1, 2, 3, 4. Tu peux faire des suites inversées. 4, 3, 2, 1. Tu peux regrouper les paires de cartes. Tu peux faire 2, 2, 4, 4, 5, 5. Et là, je ne vous donne qu'un aperçu très sommaire, mais au fur et à mesure de l'aventure, tu vas vraiment comprendre beaucoup de subtilités, en sachant qu'en plus, au début, chaque carte a un seul petit chiffre, un seul indice, à la fin du jeu, t'en as quatre. Et c'est à toi, pour chaque carte, de choisir, moi je veux choisir ce nombre, ce coin de carte. Donc t'as vraiment...
C'est pas trop complexe, trop relou. Enfin, alors, tu peux pas faire une partie en mode, vas-y, je vais me détendre 10 minutes.
Pas trop. Ouais. Là, vraiment, il faut être vraiment très très actif. tout le temps. Et voilà, je vous donne quelques exemples, mais t'as des furies, comme dans tous les grands JRPG, où tu vas devoir en fait aligner certaines cartes pour pouvoir déclencher la furie. T'as les cartes combo. Si tu fais des bons combos, tu vas gagner une carte. Et ces cartes qui sont extrêmement puissantes ne peuvent être gagnées que si tu fais ce combo-là. C'est vraiment ouf, que ça soit en attaque ou en défense. Quand tu vas défendre, en fait, tu vas devoir bien lire le pattern adverse. C'est-à-dire que tu vas avoir les personnages qui vont faire souvent les mêmes suites de coups. Et si, par exemple, le personnage en face te fait une attaque feu-feu-glace, à toi de faire glace-glace-feu-feu, tu vois. Enfin, c'est à toi tout le temps de réagir exactement pour avoir, zéro point de... Enfin, bien réagir, ne pas prendre de dégâts ou en faire, justement, surtout, beaucoup... Ce système de combat, j'ai dit qu'il n'a pas vieilli, mais dans son déroulé, c'est un enfer. En fait, aujourd'hui, en 2023, c'est complètement impossible. Je trouve que c'est très, très dur, très, très laborieux. Il faut savoir que je vous ai dit qu'il y avait une séquence d'attaque, une séquence de défense. Il y a une coupure entre chaque coup, entre chaque parade. À chaque fois, le jeu s'arrête. Tu as un tableau récap qui va te dire, comme je vous ai dit, il y a les suites de cartes, les dégâts que tu donnes, les dégâts que tu subis. Tu vas avoir l'écran qui se fige avec ce tableau. Tu as l'impression que tu as fini les combats, mais tu n'as juste fini qu'une séquence qui va te résumer les dégâts que tu as donnés, les dégâts que tu as subis, etc., etc.
Donc c'est même pas la fin d'un tour, c'est à la fin de chaque coup.
En fait, c'est des tours, c'est à chaque fois la phase d'attaque, la phase de défense, etc. Et ce qui est bizarre dans ce remaster HD, je le précise, c'est que c'est même pas traduit. C'est-à-dire que ça augmente un petit peu l'inconfort de ce petit tableau qui est pénible, qui t'arrête. Au-delà de ça, c'est qu'il est même pas traduit en français. Il a eu un petit couac, on va dire. Les combats sont, je trouve, à ce jour, assez longs, assez poussifs. Alors, c'était déjà le cas à l'époque. Damien nous en parle. On l'a évoqué avec lui. Il nous a dit, non, mais les gars, c'était déjà comme ça à l'époque. Mais moi, je sais pas. Je crois que je m'en fichais. Mais bon, aujourd'hui, le top 10 all time, c'est aussi ça. C'est réveiller un petit peu, les jeux qu'on adorait. Aujourd'hui, franchement, c'est plus possible.
On avait une autre vie à l'époque. On était moins pressés, moins stressés. Mais il n'y a pas, du coup, d'option x2, x4, comme c'est,
T'inquiète. On y arrive. Raison numéro 5. Vous intéressez à Baton Kaitos.
La mystérieuse.
Et c'est celle qui va vous étonner. C'est que le jeu sort de mon top 10. All time. Alors ça arrive. On est aujourd'hui. Il y a des jeux qui sont rentrés. Il y a un jeu qui est rentré. Il faut bien aussi qu'il y ait des jeux qui sortent.
Triste.
Alors je vous dis que le système n'avait pas vieilli, mais le rythme, lui, a vraiment mal vieilli. Son déroulé, c'est très compliqué. C'est vraiment trop mou. Mais c'est au global. Les dialogues sont mous. La mise en scène est molle. Tout bouge à deux à l'heure. C'est assez compliqué. Et même si ce remaster HD propose des options d'accessibilité, je trouve que c'est pas une bonne solution, ce n'est qu'un pansement. Tu peux désactiver les combats, tu peux les accélérer, tu peux les rendre automatiques, mais tout ça n'est qu'un pastiche. C'est que...
Oui, est-ce que c'est pas le meilleur compromis? T'as l'expérience originelle, et tu viens mettre des rustines. Alors certes, c'est des rustines, mais ils allaient pas repenser les combats au jeu, tu vois.
Alors, c'est vrai, tu as absolument raison, et je suis d'accord avec toi, mais je suis très dur. Moi, c'est que je juge le jeu tel qu'il est, et si tu veux découvrir Baton Kaitos et user de ses béquilles, virer les combats, les accélérer, les rendre automatiques, ce que vous voulez, franchement, trop bien, grand bien vous fasse, et découvrez Baton Kaitos tel que vous l'imaginez, tel que vous le voulez. Mais pour moi, c'est que j'ai envie de juger justement le jeu tel qu'il a été imaginé, et aujourd'hui, son système, son déroulé, c'est plus possible, en fait. Aujourd'hui, il a extrêmement mal vieilli, et pourtant, des vieilleries, j'en ai fait. Il y a certains, je vous ai dit, c'est chef-d'œuvre, encore aujourd'hui. Mais c'est pas le cas de Baton Kaitos. Le fait aussi que j'ai un petit peu un a priori négatif avec Baton Kaitos, c'est que il ressemble un petit peu trop à Chrono Cross. Donc il y a une partie de l'équipe, j'ai parlé de Oné, qui était dans le coup à l'époque, mais aussi Masato Kato, qui était à la direction de Cross, et il y a un petit peu le même feeling. Je vous ai parlé de dépaysement, je vous ai parlé de couleurs vives, je vous ai parlé de rythme lent, tout ça, finalement, c'est aussi Chrono Cross de ouf. Et j'ai pas trop aimé Chrono Cross, désolé. Je l'ai fait après Baton Kaitos. Moi, j'étais tombé amoureux de Baton Kaitos à l'époque. Et Chrono Cross, je l'ai fait très récemment. C'était un grand manquement, un trou dans ma culture vidéoludique. Et je l'ai rattrapé avec vous et je l'ai traité dans Red Alert. Et je vous avais dit à quel point il y avait des choses qui me dérangeaient. Et aujourd'hui, quand je refais Baton Kaitos, aujourd'hui, ça me refait penser à Chrono Cross. Et en fait, c'est un sentiment un petit peu négatif qui remonte. Donc, c'est bizarre. Mais du coup, c'est ça aussi qui contribue au fait que...
Ouais, mais ça sous-entend que si tu avais fait Chrono Cross à l'époque, il aurait peut-être été dans ton top 10 all time.
Je sais pas, peut-être. Mais pourquoi à l'époque je l'ai tant aimé, ce Baton Kaitos? Il y a une raison, c'est que c'est la faute de Jay. Il s'appelle George Grouard, auteur CERN, mais aussi rédacteur en chef de gameplay RPG, de background par la suite. Ce jeu, il a vendu, comme souvent à l'époque, il vendait les jeux. C'est-à-dire que vraiment, il te donnait envie de ouf. Je vous ai dit que Baton Kaitos était sorti en 2003 au Japon, il n'est sorti qu'en 2005 chez nous. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 2 ans pleins à l'attendre comme un ouf. Alors je l'ai dans mon sac et j'ai oublié de vous l'amener. Pour ceux qui ont la vidéo, j'aurais pu vous le montrer, mais c'est pas grave, du coup vous l'avez pas. Mais je l'ai encore, ce magazine, ce test de 16 pages, je crois, de Jay sur Baten Kaitos japonais.
16 pages, j'étais pas trop en forme, disons.
Oui, mais sauf que cette même personne, Georges Grouard, l'a testé en Jap, l'a testé en US, l'a testé en français. Et à chaque fois, ben, moi, je crois, ces tests, je les ai lus 40, 50 fois. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup attendu, c'est un jeu que j'ai peut-être beaucoup fantasmé aussi. Et c'est que vrai, quand il est arrivé, moi, je suis tombé en pamoison devant le titre, j'étais complètement ouf. Je m'étais monté auto le bourrichon aussi, grâce à Jay. La bande son qui a pas, elle aussi, contribué à l'amour que j'ai pour Baten Kaitos et qui, pour le coup, aujourd'hui, est encore extrêmement qualitative. Jay, encore lui, en faisait des caisses, c'est-à-dire qu'à la fin du magazine, bah, il traitait l'OST, critique d'OST, et c'était une page pleine d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas absolument aucune illustration, où il tartinait en te disant que c'était exceptionnel. Bande son de Sakuraba, qui est pour Baten Kaitos absolument... Bah, vraiment, il est très impliqué. C'est que je vous ai parlé tout à l'heure de Tri Crescendo, c'est une société qu'il a cofondée, et donc... C'est la première bande son de Tri Crescendo. Avant, il travaillait sur l'intégration son d'autres jeux. Sakuraba, juste au passage, hein, voilà, c'est un grand compositeur qui faisait partie de la Wolf Team, qui a travaillé sur Star Ocean, tout ça. Enfin, il est connu, mais sur Baten Kaitos, il a délivré vraiment une OST qui était extrêmement équilibrée, loin des clichés de ceux qui aiment la musique de jeux vidéo aujourd'hui, qui dit qu'il est un petit peu en mode automatique, avec ses claviers, parfois ses orgues qui partent en sucette. Là, Baten Kaitos, c'est encore aujourd'hui, c'est le top, c'est la crème. Donc, c'est ça qui m'a fait aussi aimer à l'époque le jeu. Dernier facteur qui, à l'époque, m'a fait aimer le jeu, je vais raconter ma vie, c'est que j'étais tout seul, j'étais à Toulon, j'étais pas à Toulouse, j'étais à la fac, j'étais sans mes potes, j'étais sans Nico, et vraiment, je me plongeais à l'époque dans le JRPG, dans les jeux, et c'était vraiment un échappatoire. Tout ça pour dire que le contexte personnel de la préhension d'un titre, il joue, mais tellement, tellement fort sur l'appréciation d'un titre. Et Baten Kaitos, moi, quand j'y repensais, ben ouais, je pense à cette séquence où ben, je lisais les tests de Jay, où j'ai fait le jeu. Enfin, c'était vraiment un rapport personnel complètement différent. T'es d'accord avec ça, que le rapport perso, le contexte?
Oui, oui, bon, on associe les jeux à des moments de la vie, à des émotions du moment aussi. Ça peut justement faire passer un jeu sympa ou bien au stade supérieur, quoi.
Oui. Alors même s'il sort de mon top 10, calmons-nous, hein, il est peut-être pas loin. Il y a beaucoup, j'ai vu Twitter, machin, des gens qui faisaient leur top 10 il y a pas longtemps, mais qui faisaient des top 20, des top 50. Non, c'est trop facile, ça. C'est 10, c'est vraiment compliqué. Donc il est pas loin. Je sais pas où il est. Mon but, c'est faire un top 10, pas un top 20 ni un top 50, mais ça reste vraiment encore extrêmement qualitatif. Je ne vais pas vous laisser avec cette dernière raison, ça sort de mon top 10. J'ai une solution, et la solution à tout s'appelle Baten Kaitos 2. Alors, il s'appelle 2 dans le remaster HD. À la base, il s'appelle Origins. Et c'est la solution à tout. Voilà, allez-y les gars. Le 2, il est meilleur en tout point que Baten Kaitos. Il possède les mêmes qualités, mais en x10. Mais, alors perso, pourquoi bah, du coup je substitue pas le 2 au 1, c'est que j'ai pas trop de nostalgie avec Baten Kaitos Origins. Je l'ai fait un petit peu plus tard, j'ai galéré à le faire, j'ai dû acheter, je sais pas, tu te rappelles, les disques d'import US où tu mettais le disque, tu lançais la GameCube, tu sortais le disque.
Oui, le freeloader.
Le freeloader. Voilà, c'était. Je me souviens surtout de la galère, je me souviens aussi du jeu, mais j'ai pas de rapport personnel, par exemple, avec ce que je viens d'évoquer sur Baten 1, je l'ai pas sur ça, mais au global, le jeu Baten 2, c'est un jeu de ouf, il est beaucoup plus agréable que le 1, les quelques écueils que j'ai pu énumérer sur Baten 1, la lenteur, le rythme, par exemple dans Baten 2, tu peux dasher. Dans Baten 2, t'as des actions contextuelles qui vont un petit peu agrémenter l'exploration. Tu peux passer dans le dos des ennemis pour les surprendre. T'as plusieurs choses comme ça qui font que c'est plus dynamique. Les combats qui sont excellents dans Baten 1, mais d'une lenteur abominable, dans Baten 2, ils sont beaucoup plus dynamiques. Ils sont encore plus riches. C'est-à-dire que là, on parle même de fusion de cartes. C'est la folie totale. Et le scénario qui était bien dans le Baten 1 est absolument incroyable dans le 2. Et tout prend une dimension de dingue une fois que t'as fait les deux jeux. Et même si Baten Kaitos 2 est un préquel, se passe avant, je vous conseille quand même de faire le 1 avant le 2 parce que...
C'est comme Star Wars, quoi. Faut suivre l'ordre de publication.
Quoi. Ouais, ouais. Et t'as vraiment là quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, de la narration.
C'est un casting plus resserré, le 2, non, au niveau des persos. C'est juste pas un trio qui...
C'est un petit peu plus resserré. Mais voilà, voilà, moi vraiment, ne vous intéressez pas à Baten 2, Origins. Jouez-y après avoir fait le premier. Donc voilà, avant de faire le récap du top 10, Nico, est-ce que Batten, je t'ai un peu donné envie, toi tu connais évidemment le jeu, je t'ai tanné hein, depuis.
Ouais, ouais, bah c'est, tu vois, même l'OST, hein, je l'ai écouté en boucle à la sortie alors que j'ai jamais fait le jeu. C'est un peu comme Vagrant Story, c'est des jeux qui m'intriguent de ouf, qui ont des univers qui me plaisent grave, mais j'ai l'impression que le gameplay, c'est pas pour moi vraiment, quoi. Moi, déjà, les jeux à base de cartes et tout, c'est pas du tout mon délire. Alors les jeux lents encore moins, donc là si tu me dis c'est un mix des deux, je sais pas si c'est pour moi, quoi. Après pourquoi pas un jour en x2 en zappant les combats,
voilà.
Ce qui va faire sursauter la moitié des gens qui nous écoutent.
Il fait une cinquantaine d'heures à la base.
C'est long.
Je pense que réellement en x2 sans les combats tu mets 20 heures. Je pense que tu peux squeezer 30 heures. Enfin, il y a des combats dans Batten 1 qui durent une heure. Mm. C'est vraiment c'est très compliqué. Gagner une heure sur un combat. Ce tu traces quand même. Donc voilà pour le top 10 all time et Batten Kaitos. Petite mise à jour. En plus, ça va permettre à Ken là de nous. Ceux qui ont la vidéo vont voir un petit peu ce top 10 là. Alors on est en première position FF7 qui n'a pas bougé.
Qui ne bougera jamais.
Ne bougera peut-être jamais. Position 2 et 3. Alors là, c'est toujours un trou. En quatrième position, on a Shenmue qui est monté. En cinquième position, on a Chrono Trigger qui est monté. En sixième position, on a Returnal qui est entré dans le top.
Le challenger
de folie. Il va peut-être bouger, je ne sais pas, mais faut que je refasse mon top 2 et 3 avant que ça bouge. Donc il faut juger. En septième position, c'est Majora's Mask. Il est descendu. Aïe aïe aïe. Et Resident Evil Rebirth qui est descendu. Et il y a encore deux trous en neuvième et en dixième position. Je vous donne rendez-vous si tout va bien. Une fois encore, en octobre, pour un nouvel épisode de ce Top 10 All Time, parce qu'il se passe quelque chose autour du 24 octobre, une occasion pour moi peut-être de revenir sur un jeu culte. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
Mais je serai là.
tu seras là, et à bientôt pour un nouvel épisode de ce Top 10 All Time. Est-ce que tu es d'accord, Nico, pour qu'on s'arrête, qu'on se pose, parce que vous êtes au courant, ce Top 3, interlude Top 3 cette semaine qui s'intéresse aux plus belles jaquettes de jeux vidéo. La semaine dernière, on a fait les plus belles... Les boîtes. On a fait un top 3 des boîtes. Et voilà, on vous l'avait déjà dit. Cette semaine, c'est les plus belles jaquettes qui nous a été proposée à l'époque par Flavien sur Discord. J'ai retrouvé ça.
Qu'on salue.
Et bah écoute, est-ce qu'il y a besoin de préciser l'intitulé ?
Alors, petit préambule personnel. C'est des jaquettes, j'ai choisi, qui sont belles mais qui m'ont marqué. Parce que des jaquettes belles, je pense qu'on peut en sortir 30 000. Et c'est vrai qu'on a, je pense, toujours un peu tendance à tourner autour des mêmes licences et de nos jeux un peu cultes, quoi.
Je juge pas trop, parce que c'est possible que je sois extrêmement cliché, moi.
Non, mais très bien.
Alors, si vous nous écoutez en podcast, merci. Si vous nous regardez en vidéo, vous allez pouvoir profiter du taf de Ken. Alors, vous avez vu avec le Top 10 All Time, là, il y a eu un beau tableau. Mais là aussi, il a fait des beaux visuels. Donc, si vous nous regardez ou si vous avez envie de nous regarder en vidéo, ben voilà, c'est agrémenté de petits assets que Ken a préparé. Donc, vous allez voir les jaquettes voilà, qu'on va évoquer.
Tout à fait.
Top 3, à toi.
Alors, je commence par la surprise, je pense. Ça sera Max Payne 2.
Oh!
Max Payne 2 parce que c'est une jaquette alors, je trouve absolument magnifique mais qui a ce côté alors vous allez la voir en vidéo hein, mais ce côté affiche donc noir et blanc avec les silhouettes des deux personnages et avec surtout ce sous-titre film noir love story et que je trouvais ultra fascinant quoi. C'est vraiment on sait l'appétence de Remedy pour le monde du ciné et tout et là d'avoir ce Max Payne là qui était tourné vraiment vendu comme une espèce de film noir et quand on connaît l'histoire des Max Payne on voit que ça se justifie pleinement avec le perso donc féminin Mona Sachs qui apparaissait et tout et je trouve qu'elle a un espèce de magnétisme de ouf cette jaquette qui fait que enfin ça vante super bien le jeu quoi. Ouais.
Elle est magnifique et je m'y attendais pas, c'est vrai, mais ça me fait vraiment remarquer que on a je pense les mêmes goûts sur les jaquettes sobres, blanches avec quelque chose de très minimaliste.
Ouais, c'est possible.
Je pense qu'il y a un truc là-dessus. Est-ce que tu peux allumer la petite télécommande là-bas comme ça je
t'as
pense.
Fait.
Ouais, s'il te plaît. Alors, vous inquiétez pas, c'est qu'on est un petit peu chaud. Mon top 3, d'habitude nos tops on les garde un petit peu secrets et au travers de quelques discussions avec Anne, j'ai cru deviner que mon top 3 allait être commun avec le tien, donc je n'en dis pas plus.
Voilà, je ne galère pas du tout en plus hein, ouais. Allumer la...
Et en plus c'est très...
Alors j'ai réussi à t'écouter...
Podcast, hein. En podcast c'est intéressant,
oui.
En vidéo c'est peut-être un peu plus marrant de te voir galérer.
C'est possible.
Voilà. Donc mon top 3, on va sûrement l'évoquer un peu plus tard avec toi, donc je te redonne la parole pour ton top 2.
Mon top 2, alors là aussi c'est un truc marquant, alors qui est belle, c'est une façon de voir les choses, hein, c'est Street Fighter 2, la jaquette Super NES, parce que je trouve qu'elle m'a envoyé tellement du rêve à l'époque, avec ces persos qui sont dessinés de manière un peu américanisé, un peu plus comics et tout. Et je pousse même jusqu'à la boîte de Street Fighter de Turbo. Et là, parce qu'on a une trivia rigolote, en fait, c'est qu'on a réalisé il y a pas longtemps qu'il y avait le perso de Dalsim qui était planqué en plein milieu de l'illustration.
Est-ce que vous le saviez?
Et qu'on n'avait jamais vu, en fait. Alors que Dieu sait que cette boîte, on l'a poncé, on l'a regardé, on l'a observé. Mais en fait, oui, entre les deux combattants qui s'affrontent, c'est Honda et Sagat, je crois. Bah, t'as Dalsim qui est en train de faire une téléportation yoga.
Mais c'est vrai que cet illustrateur qui s'appelle Mick McGinty, tout le monde ne l'apprécie pas. Pourquoi j'ai noté, parce qu'il a aussi fait la jaquette de Shining Force que j'adore vraiment beaucoup, mais qui n'est pas dans mon top. Mais tu évoques Street Fighter, mais il a un trait particulier.
Bah, c'est les jaquettes occidentalisées dont on s'est souvent moqué, mais là c'est le pan réussi quoi. Oui. C'est pas le Mega Man 1, le fameux.
Oui, avec sa tête de bonhomme quoi. Non mais carrément, écoute, ça fait plaisir, en plus, ça me permet de parler de Shining Force, donc ça fait plaisir. Alors mon top 2, Happening, si vous avez encore une vidéo, c'est que je vais la montrer même avant. Ceci, Metal Gear Solid Death. Donc voilà, encore une fois, une coupe assez sobre. Yuji Shinkawa, c'est de la valeur sûre, c'est-à-dire que même il a sorti il y a quelques années, je crois maintenant, un jeu qui s'appelait Alive, qui était éclaté, mais dont la jaquette pourrait rentrer dans un top tellement elle est magnifique. Zoé 2. Alors attention, Zoé 1, quelle que soit sa version, je crois que c'est pas Shinkawa, mais Zoé 2, c'est lui. Mais c'est sublime. De toute façon, c'est un de mes chara designers préférés. Je suis, certes, c'est vrai, tu vas voir mon top 3, je suis complètement dans le cliché, mais là, je peux pas faire autrement.
On parlait de singularité pour Batten, mais Yuji Shinkawa fait aussi partie de ces chara designers qui ont un style inimitable, en fait. Ouais. Enfin, inimitable. Il y a justement des gens qui reprennent le délire, mais qui a son style à lui qu'on trouvait pas à l'époque et, wow.
Et c'est sublime. Bon, au-delà de la nostalgie et l'amour qu'on peut avoir pour MGS2, j'adore cette jaquette.
Celle du 3, évidemment. C'est avec Subsistance ou Snake qui fait le
style. Prenez ce que vous voulez de Shinkawa, des jeux bons ou mauvais. Tout est excellent. Voilà, mais MGS2 pour mon top 2.
Alors top 1, je vais assumer mon cliché et j'ai cru comprendre qu'on se rejoignait sans le vouloir. Enfin, quand on parle de jaquettes de jeux vidéo magnifiques, évidemment on parle à Yoshitaka Amano et donc à Final Fantasy. Et pour moi, et apparemment peut-être pour toi aussi, quand ma préférée, ça reste FF12.
Oui.
Alors déjà, le design des juges qui était ultra classe à la base, mais là, t'as ce juge qui est plein fer sur la couve, avec cette espèce de trait de pinceau à côté ultra stylé. Oui. Bah, les couleurs, elles sont magnifiques.
Je suis d'accord, moi aussi, voilà. Et moi, c'était mon top 3. Bah, pour citer, voilà, la grande série, Amano, tarte à la crème, mais comment faire autrement?
On aime la
crème. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, Amano, il est souvent très sobre. Mm. C'est un seul élément. Là, il a vraiment.
C'est lâché.
T'as la verticalité qui va éclater la couve, qui est énorme, avec ce Gabrance qui est hyper emblématique. Et truc en plus sur FF12, c'est que vous pouvez avoir des jaquettes magnifiques sur la version classique, mais tout le temps, c'est magnifique. C'est-à-dire que la Zodiac Age, elle est magnifique. Le Steelbook, il est magnifique. Et là, vous allez pouvoir retrouver, pour le coup, Yoshida, qui est un petit peu le trio avec Matsuno Sakimoto à la musique. C'est leur trio. Il y a des petits autres trios créatifs. Mm. Bah, Yoshida, c'est quand même aussi sublime. Et là, FF12, c'est quelle que soit la version que vous allez choisir, vous êtes dans du top.
Oui, bah, Yoshida aurait de quoi faire un top 3 lui tout seul avec Vagrant et compagnie. Donc,
c'est de la grosse boule. je pense que là, on peut le dire. Donc voilà, FF12. Alors, j'ai pas d'happening il est chez moi. FF12, je l'ai pas apporté.
Est-ce que tu as des mentions? Parce que moi, j'ai une mention.
Attends, j'ai pas mon top.
Ah, pardon, excuse-moi. Mon top 1. Ah oui, non, mais c'est vrai que t'as FF12, je pensais que tu l'avais mis en top 1.
Mon top 1, c'est Lament of Innocence, le Castlevania, qui est illustré par Hayami Kojima, qui est, bah là on parle de trio créatif, on avait Kojima, Igarashi et Yamane à la musique, bah là voilà, tout ce qui est l'ère Igarashi illustré par Kojima sur les jaquettes depuis Symphony of the Night. Alors, elle en a raté un ou deux, le Aria of... Truc of Sorrow.
Le Dawn of Sorrow.
Dawn of Sorrow, c'est pas elle.
Ouais, et le Harmony of Despair aussi, je crois que c'est pas
mais
elle.
Mais tout ce qui est illustré par Hayami Kojima sur Castlevania est sublime. Et là, par exemple, j'ai avec moi Curse of Darkness.
Qui est magnifique aussi.
Et donc, voilà, mon préféré, c'est Lament of Innocence. Attention, version Jap et US. Oui. Alors, c'est deux jaquettes différentes. Les deux sont magnifiques, c'est mes jaquettes préférées all time. Mais ce qui est rigolo avec Lament of Innocence, c'est que dans un top, il y a un autre top qui se cache, c'est que Lament of Innocence en version pâle,
putain,
on est sur la plus moche jaquette de l'histoire.
Ah, je sais pas, on va parler de ma mention après aussi, je pense.
Ça se teste. Est-ce que ta mention, c'est pas ça?
Si, mais la version américaine de celle-là.
Donc là, je suis en train de montrer Ico, qui a une sublime jaquette chez nous, et au Japon. Mais la version américaine,
Elle est du niveau. C'est incroyable. Mais le pire, c'est qu'on a même perdu le sous-titre. On a tout perdu, là.
Excellent.
Quel souvenir.
La Mental Finance, c'est excellent.
Quel souvenir. Je pense aujourd'hui, c'est éclaté.
Je sais pas. Parce que c'est dans le top 10. J'ai envie de le refaire.
C'est vrai qu'Hayami Kojima, elle a aussi cette rareté. On la voit pas. Même dans tous les Castlevania, on l'a pas vu forcément au rendez-vous. Et elle a un style, là aussi, complètement incroyable.
Oh, du beau top. Là, il y a du beau. Là, c'est du. T'as d'autres mentions? J'en ai quelques-unes, du coup.
Alors, moi, j'ai une mention, en fait, qui reprend deux jeux. Hein. C'est vraiment le duo, tu l'as montré, donc Ico, mais Another World, en fait.
Ouais.
Another World, c'est dans le jeu développé par Ishii, qui avait peint lui-même l'illustration de la jaquette avec ce héros qui contemple un peu le monde, ce monde étranger.
C'est pas le cas de Ueda aussi, je vais dire une bêtise.
Ico, donc, c'est aussi une œuvre peinte par Ueda, et on sait que Another World a influencé Ueda sur la création de Ico. Et donc, il répond un petit peu à cette influence en faisant lui-même aussi sa jaquette peinte derrière. Je trouve ça cool d'avoir cette résonance entre les deux jeux, quoi.
C'est là où c'est touchant. Enfin, Ico, c'est un jeu culte pour je sais pas combien de joueurs. Et Ueda, il est tout timide face à Shai, face à son héros final et qui lui rend hommage dès qu'il peut.
Ouais.
C'est trop mignon.
Mais effectivement, matez la jaquette US de Ico pour vous taper une bonne barre.
Ouais. Petite mention pour ma part, c'est le Prince of Persia. Attention, édition japonaise, illustrée par Terada. Et voilà, c'est sûr que la vidéo voit notre édition collector de notre livre, Les Carnets de Jordan Mechner, qu'on a réussi à déterrer. Donc, on peut raconter peut-être la petite histoire l'illustration, on va pas dire qu'elle était perdue.
Si, parce que même Terada l'a pas en bonne qualité.
Elle a été retapée pour qu'on puisse vous proposer un livre en grand format avec une couverture HD avec un ex libris à l'intérieur. Alors, on vous fait envie, désolé, elle est en rupture de stock.
Ouais, et en plus, bossé par un mec, alors je sais pas s'il bosse pas chez Ubisoft. C'est chez Ubisoft?
C'est chez Ubisoft, ouais.
Ah, je croyais que c'était chez Rocksteady.
Je confonds avec notre couvre la peut-être. Je sais pas, je crois que c'est Ubisoft. Non, je crois que c'est Ubisoft, c'est cette même personne qui avait retapé, je crois, j'en sais rien, qui avait retapé justement cette image, et tout le monde était un petit peu touché, c'est-à-dire que Jordan Mechner l'était, parce que c'est ça aussi, l'illustration préférée à Jordan, donc hyper stylé, rapidement, parce que c'est un top, on s'éternise, mais ça fait plaisir, c'est Panzer Dragoon, attention, édition Jap par Moebius, je crois.
Jean Giraud.
Ce petit Moebius, pas pire, on est pas pire, donc on est quand même pas mal sur ces jaquettes. Je pense que vous aurez de quoi alimenter allègrement ce top 3 des plus belles illustrations, parce que on a tous un petit peu nos accointances, qu'est-ce qu'on aime en termes de style, en termes d'illustrateur. C'est un top qui fait plaisir.
Ouais, on peut peut-être juste dire Katsuya Terada, artiste couverture pour Sœur d'édition, évidemment, qui a fait la first print de notre livre Akira. Donc d'avoir un mec qu'on cite dans notre top des jaquettes qui a fait une de nos couves, c'est quand même stylé.
Ça flex. Ouais, écoute,
il faut
en profiter. Aussi, n'hésitez pas à nous balancer vos tops, vos idées de top. Là, vous avez été, la semaine dernière, vous avez balancé un max de tops sur notre Discord qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre. Voilà pour cette interlude top 3. Nico, je vais te laisser la parole pour nous parler, non pas d'un DLC, mais d'une extension.
Attention. Effectivement, donc 3 ans après la sortie du jeu de base, CD Projekt sort enfin sa grosse extension pour son Cyberpunk 2077. Et ce ne serait pas juste de parler de simple DLC, mon ami. c'est écrit, c'est pas moi qui fais les règles.
C'est un standalone.
On est bien sur une extension, voilà, un gros morceau de jeu qui aurait pu sortir en standalone, mais qui ne le fait pas. Alors donc un gros morceau du jeu, mais évidemment avec un scope un peu plus restreint que le jeu de base, évidemment. Un peu à la manière de ce qu'on a connu sur l'extension Miles Morales pour Spider-Man, oui. Lost Legacy pour Uncharted 4, ou bien ce qu'on imagine pour être le futur extension d'Elden Ring. Donc CD Projekt, avec ce projet-là, va terminer vraiment ces 3 ans de pénitence où il a bossé en sous-marin pour tenter un petit peu de colmater les soucis, de poser des rustines à droite à gauche là où il y avait besoin, parce que vous le savez, Cyberpunk a eu un lancement compliqué, on va pas refaire toute l'histoire non plus, mais voilà, c'était une manière d'apporter un peu le point final, et on va voir s'ils s'en sortent avec les honneurs ou pas. Alors, on a beaucoup entendu parler d'arc de rédemption autour de CD Projekt et de cette sortie de Cyberpunk. Voilà, comme s'ils avaient sauvé un jeu qui était complètement nul et qu'ils avaient un peu s'en sorti avec les honneurs. Alors, je suis pas d'accord, vraiment, pour deux raisons. C'est qu'à la base, le lancement catastrophique de Cyberpunk, c'était surtout lié à des soucis techniques sur les consoles old-gen, notamment les consoles FAT, donc PS4 et Xbox One de base, les versions de base. Et à l'heure actuelle, en fait, or déjà, je suis incapable de vous dire si c'est 100% réglé, parce que j'ai pas pu tester ça moi-même, mais les dernières infos que j'ai pu récolter, qui datent de décembre dernier, montrer que malgré toutes les mises à jour, ça reste très compliqué de jouer à Cyberpunk sur ces deux machines. Et d'ailleurs, la mise à jour 2.0 dont on va parler et cette extension ne concerne pas ces versions-là. C'est uniquement sur les plateformes next-gen. Donc, ce gros souci n'est pas résolu. Donc, parler de rédemption, je trouve ça peut-être un petit peu compliqué. Et surtout, c'est que Cyberpunk, on en a parlé tous les deux, bah, il était déjà bon à la sortie. Et t'as entendu qu'à partir de maintenant, quand je vais parler de Cyberpunk, ça sera si vous l'avez fait dans une version de jeu dans les bonnes conditions, ce qui était notre cas. On l'a fait sur Xbox Series X et sur PS5, et là, le jeu tournait très bien. Il y avait quelques bugs, mais pas beaucoup plus que n'importe quel open world à sa sortie. Et voilà, quand on fait le jeu dans des bonnes conditions, ben, le jeu, il était super. Moi, je crois que je l'ai mis dans mon top 3 de l'année, il me semble. Je sais pas si c'était ton cas aussi, mais...
On a un sur Strike UX, d'ailleurs.
Ouais, on en parle en long, en large, en travers. Ouais. Donc, vraiment, on avait grave kiffé, quoi. Donc le jeu était bon mais peut-être pas parfait. On sait qu'à sa sortie, bah, y a peut-être eu une déception chez ceux qui en attendaient soit un espèce d'immersive sim ou un RPG vraiment pointu où le jeu prendra en compte vraiment, tu vois, la réactivité de tes choix tout au long de l'aventure. Bah ça, oui, effectivement, ça a été peut-être une déception pour certains, mais ça, voilà, c'est après le genre du jeu, quoi, qui veut ça. Et donc, cette mise à jour 2.0, elle va corriger et améliorer pas mal de petits points qui faisaient défaut au jeu. Par exemple, l'intelligence artificielle de la police, qui était un petit peu moquée à l'époque. Tu vas aussi avoir la nouvelle arborescence des compétences qui va être plus claire et plus lisible. Donc, on voit que ces changements, bah, ça vient pas transfigurer ou modifier profondément le jeu. C'est vraiment des trucs qui l'améliorent incontestablement. Mais, or, c'est un petit peu à la marge, quand même. C'est des trucs qui sont, voilà, comme on a pu le voir dans la version enhanced de The Witcher 3, par exemple.
Ok, ça peaufine.
Donc, en mon sens, voilà, cette sortie de Cyberpunk Phantom Liberty, on peut pas parler d'incroyable rédemption ou comparer ça à du No Man's Sky ou du FF14. On est quand même sur quelque chose qui est un petit peu différent, quoi.
C'est exactement ce que j'ai demandé, No Man's Sky. On n'est pas là-dedans.
Non. En ce qui concerne le contenu de cette extension en tant que telle, on va en parler maintenant. Donc l'action prend place là dans l'enclave de Dogtown, en fait, qui se situe en plein cœur de Night City. Donc c'était un lieu qui était inaccessible dans la version de base, mais on reste vraiment au cœur de la ville, hein, là-dessus. Donc ce nouveau quartier, il est auto-géré, on va dire, par un dictateur, quoi, un militaire un petit peu taré. Et donc là, donc il a sa milice sur place, en fait, qui va gérer un petit peu faire la loi dans cette section là, quoi.
Okay.
Donc ce nouveau quartier, ben, il est cool parce qu'il a vraiment ce côté coupé du monde avec cette ambiance un peu destruction, presque un peu post-apo, tu vois. On voit que évidemment t'as pas des travaux qui sont faits de réhabilitation, hein, parce que c'est géré par un dictateur, quoi.
Du coup t'es toujours en danger, c'est un peu c'est une partie de la ville où dès que tu vas on te canarde, ça va pas.
Non, ben, c'est la milice fonctionne un peu comme les flics, c'est-à-dire dès que tu vas foutre le bordel ils vont venir t'emmerder, mais après tu peux quand même te balader de base. Mais t'as une espèce de frontière pour rentrer dans cette ville, en fait, où ils vont un peu, voilà, voir ce que te scanner un peu, voir si tu peux rentrer, quoi. Et donc ça change un peu d'ambiance par rapport au futur, enfin à la physionomie de Night City de base, ce côté futuriste avec des néons, du côté shiny partout. Là on est vraiment sur quelque chose un peu plus post-apo, quoi.
Ok, Mad Max. Plus brut, quoi.
Pas autant, mais voilà, on reste quand même sur un truc SF et tout.
On est quelque chose, on est encore, enfin, les qualités de Cyberpunk sont dans ce quartier, c'est très caractérisé, le quartier, tu le reconnais à un coup d'œil, et tu sais où tu es.
Ça, c'est, mais. Il a vraiment son identité propre.
Ne serait-ce que de me dire, t'as un nouveau quartier dans Night City, moi, c'est fini, ça me vend le jeu, j'ai envie de le faire. Enfin, ça me vend l'extension, pardon.
Et donc, cette ambiance, en fait, elle s'articule dans un jeu qui développe vraiment un délire à la techno-thriller, un petit peu. Donc, là, on va avoir affaire à des agents secrets, et même le héros va devoir confier un peu le job d'agent secret pour mener bien sa mission. Donc on a cette espèce de job officiel, et tu vas voir tout ce qui en découle en termes de jeu de pouvoir, de jeu d'influence, comme on peut avoir l'habitude dans ce genre de film. T'as même des délires un peu à la heist movie quand tu vas préparer des casses et tout. Donc c'est un concept là aussi bien différent de l'aventure de base, avec des règles et une approche différente. Et pour pousser le délire vraiment mission, infiltration, espionnage, t'as un générique de fin même qui va venir être un peu très James Bond, autant visuellement que dans la musique, qui vient clairement rappeler les influences de l'extension, quoi.
Ok, t'as un générique de fin de l'extension.
Ouais.
Ok.
Donc l'histoire de cette extension a proposé vraiment un contenu qui sera plus ténu, plus cadré, avec un casting de personnages évidemment moins étendu, hein, parce qu'on n'est pas sur la démesure de l'aventure de base. Et on sent d'ailleurs que le focus, il a été porté sur cette trame principale, parce que là, les quêtes annexes, pour le coup, elles sont quand même bien en deçà de ce qu'on avait pu voir dans Cyberpunk, qui était quand même une des forces de l'aventure, ces quêtes annexes. Là, c'est un peu plus oubliable. Vraiment, les efforts, c'est fait sur l'aventure de base. Okay. Et bon, c'est plutôt cool là-dessus.
C'est déjà quelque chose qui est annexe, donc ce serait des quêtes annexes.
Donc l'histoire, je trouve, l'extension, elle est super réussie, parce que l'histoire et les nouveaux personnages, ils sont vraiment super intéressants. Cette entrée en matière, le début du jeu, c'est vraiment 2 heures de jeu très linéaire, presque un peu blockbuster à Uncharted, vraiment pour te concentrer ton attention dessus. Et finalement, la dramaturgie, elle va monter en puissance avec ce dernier tiers, je trouve, qui propose des moments de tension assez ouf.
Okay.
Alors je trouve qu'il y a eu un petit ventre mou justement entre cette intro blockbuster et ce dernier tiers super intense, où ça met peut-être un peu de temps à démarrer après. Mais voilà, Cyberpunk, on le retrouve et on l'apprécie là-dessus. Pareil pour cette façon de mettre en scène cette proximité des discussions, des rencontres, avec toujours cette vue subjective super immersive. T'as aucun jeu qui te permet de sentir autant la présence de l'autre devant toi, avec ces animations qui sont toujours ouf, hein, ces persos qui sont au repos, mais ouais, qui sont toujours en train de se tortiller un petit peu.
Ouais, très réaliste, quoi.
Ces regards aussi qui sont incroyables. Donc, enfin, là-dessus, les forces principales de Cyberpunk, on les retrouve dans cette extension, quoi. T'as toujours aussi possibilité d'aborder l'aventure en fonction de ton build de perso. Je mets des guillemets parce que c'est pas aussi poussé que dans d'autres jeux, hein. Mais si tu veux privilégier la discrétion, l'infiltration, tu pourras. Si tu veux de la jouer plus hacker, tu pourras.
Ouais, tu peux jouer bien techno hacker, quand
même. Moi, j'ai repris mon perso que j'avais dans mon tir principal et j'étais vraiment ce sniper qui défonçait tout le monde un petit peu à distance. Et donc, j'ai pu reprendre mes marques là-dessus sans problème. Ah, t'as entendu que les limites dont je parlais tout à l'heure, que voilà, c'est pas un RPG aussi pointu que ça, et que c'est pas, voilà, t'as pas 50 options de choix et tout. Ça reste le même souci ici. Donc, si vous avez un souci avec le jeu de base, vous aurez le même ici, quoi. Mmh. Ce qui est chouette, c'est cette extension, en fait, elle vient vraiment jouer un rôle complémentaire à l'aventure de base. Donc, par son ambiance, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, là, tu bosses pour le gouvernement des New USA, donc le NUSA, avec un propos peut-être un peu plus classique. Et c'est vrai que t'as l'impression, hein, d'être un petit peu dans le camp des gentils et tout, parce que t'as cette espèce d'autorité. Mais bon, comme d'hab avec CD Projekt, on se rend compte que le jeu n'est jamais manichéen et qu'évidemment tout n'est pas si simple que ça.
Okay.
Et ici, en fait, le perso de vie, donc celui que t'incarnes, il est plus tellement au centre du scénar. Tu vois, t'es un peu pris par les événements, pris dans l'engrenage d'une histoire qui te dépasse.
Okay.
Et finalement, tu vas subir un petit peu plus. Et idem pour Johnny, hein, donc Keanu Reeves, hein, que Johnny Silverhand, qui était une des forces du jeu de base. Ici, il est aussi beaucoup plus discret. Il sera toujours présent pour faire 2-3 blagues, pour apparaître, mais on le voit beaucoup moins. Il apparaît un petit peu plus dans les quêtes annexes, pour le coup. Mais voilà, bon, il fallait faire aussi de la place à Idris Elba, hein, qui incarne...
Je me retiens depuis tout à l'heure, je me posais la question.
Qui incarne un des persos, voilà, donc qui est cet agent du gouvernement américain, okay, qui va être là un peu pour bosser en tandem avec toi. Et bon, Idris Elba, monstre de charisme, on voilà, le sait.
Est-ce qu'il fait le taf? Parce que Keanu Reeves, sur son rôle de Johnny Silverhand, c'était pas quelque chose d'accessoire. Enfin, moi, je trouve qu'il est incarné. Et ce personnage-là, c'était pas un Joe le PNJ. Il est pas venu pour cachetonner. Mm. Il a pris son chèque, évidemment. Mais c'était un rôle à part entière, je pense, pour Keanu Reeves. Et ce qu'il a fait dans le jeu, c'est apporter une vraie plus-value d'acteur. Et Cyberpunk est aussi incarné par Keanu Reeves. Est-ce qu'Idris Elba, il est aussi impliqué quand il parle, enfin tu vois son jeu d'acteur, tu sens qu'il y a un delta, tu fais waouh. Okay.
Ouais, bah, rien que sa voix, Idris Elba, de toute façon tu reconnais la classe du perso.
Ouais.
C'est pas exactement le même traitement parce que Johnny vraiment c'est le perso qui t'accompagnait tout le long du jeu et donc tu pouvais passer plus de 30-40 heures avec lui et la relation avec le héros allait largement évoluer en fait et les deux allaient apprendre à se connaître. Là Idris Elba, alors c'est plus un PNJ habituel mais un PNJ important, hein.
Okay.
Mais c'est plus un PNJ habituel dans le sens où bah il va jouer sa partition dans une histoire où il a peut-être beaucoup, un peu moins de nuances qu'un Johnny Silverhand. Tu vois, c'est vraiment l'agent du gouvernement qui va faire passer sa mission avant tout.
Okay.
Donc, il est quand même très intéressant, justement, parce qu'il a ce côté, ben, très, voilà, c'est la mission avant tout, tout ça. Il va aussi évoluer, mais c'est pas le rôle d'une ampleur aussi forte que celui de Johnny. Mais après, c'est aussi, tu le vois, dans un laps de temps plus limité, oui, donc c'était quand même compliqué. Mais le perso, son design, il est ultra classe. Idris Elba, le doublage, il est incroyable aussi. Donc, ça fait quand même grave le taf quoi là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres persos dans l'aventure, j'en dis pas plus, mais qui sont peut-être plus intéressants qu'Idris Elba, plus nuancés, plus... ouais. Donc là-dessus, je vous laisse découvrir ça, quoi. Donc au global, j'ai quand même beaucoup apprécié l'aventure de Phantom Liberty, mais je me demande si je conserve pas finalement une petite préférence pour l'aventure initiale malgré tout. Alors déjà parce que bah, le plaisir de la découverte, il s'est fatalement estompé un petit peu, hein. Mais surtout parce que l'aventure initiale, de fait, hein, je trouve qu'elle épousait davantage la philosophie globale du jeu, c'est-à-dire t'incarner un mercenaire, donc un électron libre, mais qui devait trouver sa place dans une ville tentaculaire. Donc le but du jeu, c'était vraiment de papillonner dans cette ville, de flirter un peu avec la morale, de rencontrer vraiment une faune de gens bigarrés, mmh, et de passer d'une mission à l'autre et tout. C'était vraiment ce sentiment, oui, avec ces persos qui te passaient des coups de fil, qui t'envoyaient des messages, où t'étais sollicité constamment, quoi. Et ton perso, ben, il était à l'image de la ville dans l'aventure principale, donc bordélique, éparpillé, versatile. Là, je l'ai dit, dans Phantom Liberty, on se situe dans un contexte beaucoup plus cadré. Et il y a des thématiques qui sont un peu moins nombreuses, forcément, mais qui sont peut-être aussi plus fortes et du coup, t'as moins cette ivresse de la liberté. Plus, ben, cadré comme le peut être un film, en fait, quoi, où t'as vraiment, oui, ce propos à suivre, quoi. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment complémentaire avec la quête principale. T'as deux aventures qui vont avoir une topologie un petit peu différente et c'est bien de pas refaire la même chose, quoi. Oui. Après, c'est vrai que moi, je pense que l'aventure principale m'avait peut-être un peu plus marqué, mm-hmm, mais ça reste vraiment super. Et pour preuve, hein, c'est que l'écriture qui reste une des forces du jeu. bah, la fin de mon aventure dans Phantom Liberty, j'ai pas kiffé. C'était une fin douce amère, j'étais un peu deg, mais parce que, tout simplement, le jeu, il te met face à des choix qui sont impossibles. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, de bonne voix, de mauvaise voix. Quoi qu'il arrive, tu seras deg, donc c'est à toi après, bah, de voir ce que tu préfères privilégier ou pas. Donc voilà, j'étais bien deg, mais ça montre que c'était plutôt c'était de bien. Qualité, quoi. Maintenant, comment appréhender un petit peu cette aventure? Il faut savoir que si tu démarres le jeu from scratch, on va te proposer de sauter directement en fait au moment de l'aventure où peut démarrer cette quête.
D'accord, ok.
C'est-à-dire que ça démarre pas du début, parce que si tu te souviens, t'as quand même 5-6 heures de prologue dans Cyberpunk qui sont indispensables en fait pour lancer l'aventure. Donc si tu as, moi ce qui était mon cas, c'est que j'avais toujours ma sauvegarde juste avant la dernière mission, ben voilà, au moment perso va t'appeler vite pour te dire ben voilà, commence cette quête là, donc tu peux reprendre ta sauvegarde, okay. Ou tu peux le faire comme je dis en sautant à partir du menu direct. Exactement. Pour le coup, je trouve que cette aventure, elle pourrait même être un sorte de pied à l'étrier pour ceux que Cyberpunk il va un petit peu intimider en disant c'est un jeu qui a l'air super vaste avec plein de quêtes partout, le côté RPG, j'ai peut-être peur de me lancer là-dedans. Et en fait, ce côté plus cadré de l'aventure Phantom Liberty, ouais. Ça peut être, je pense, un bon moyen de commencer le jeu.
Okay.
Ce qui est dommage, c'est que c'est pas le début du jeu, comme je l'ai dit, donc t'auras cette espèce de dissonance où tu vas commencer l'aventure un peu en plein milieu, avec Johnny qui est déjà présent et tout. Donc voilà, parce que en soi, je me demande comment ça va se goupiller si tu fais l'aventure d'une traite.
C'était ma question. Et comment elle est censée s'intégrer, s'imbriquer dans la quête principale?
Elle arrive, voilà, après un peu le premier tiers du jeu, et c'est voilà une quête que tu pourras faire en soit tout poncer d'un coup, soit bah, alterner avec ta quête principale aussi. Donc là, j'ai un peu peur que les deux rentrent en collision et que t'as à la fois ce côté, comme je disais, un peu débridé, versatile de l'aventure de base, et ce côté très cadré de cette quête. Je pense qu'ils l'ont pensé en priorité pour comme une extension qui arrive 3 ans après l'aventure principale, et faire tout d'une traite. Je sais pas trop comment ça va rendre, en fait. C'est vrai que c'est une question que je me pose là-dessus, quoi. Mais ça peut être, comme je dis, une manière de goûter un peu en douceur à l'expérience Cyberpunk, quoi. Donc, à voir, ça peut peut-être tenter certains d'entre vous, quoi. Quoi qu'il en soit, bah, j'ai trouvé vraiment le jeu excellent. À l'époque, Cyberpunk 2077, et il l'a encore aujourd'hui, et grâce aux corrections de soucis techniques qu'il y a eu pendant 3 ans, grâce aux ajouts et la refonte de la mise à jour 2.0, et grâce à ce contenu scénaristique très réussi, le jeu devient encore meilleur, quoi. Mmh. Donc, évidemment, si vous avez depuis un moment envie de vous lancer dans le jeu, là, n'attendez plus, c'est le moment idéal. Et de toute façon, ça y est, là, on arrive à la fin de Cyberpunk 2077. Et c'est des projets qui vont maintenant pouvoir clore ce chapitre qui a été compliqué, qui a été long, qui a été coûteux, pour pouvoir maintenant regarder plus sereinement devant eux. Mmh. Et on sait que maintenant, entre la nouvelle trilogie The Witcher et la suite de Cyberpunk, ils ont fait un peu le job pour pouvoir être serein là-dessus, quoi.
Ok. 2077, Cyberpunk 2077, ça faisait partie de ton top 3 à l'époque. Là, c'est une extension, est-ce que ça rentre dans les tops ou pas? Je ne sais pas,
c'est
mais
compliqué.
C'est un jeu ou une expérience quand même que tu vas retenir comme très qualitatif dans l'année. C'est pas le petit truc que t'as fait.
Ouais, comme je l'ai dit, je suis pas forcément dans. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit j'ai préféré l'aventure principale, je trouve le jeu meilleur et tout. C'est pas forcément mon cas. Et je trouve qu'il y a ce ventre mou, moi, qui m'a un petit peu gêné à un moment. Mais,
dans l'extension, tu parles.
Ouais. Mais il y a ces moments dans l'extension où tu retrouves, tu dis, OK, putain, je me rappelle pourquoi Cyberpunk, c'est un jeu que j'avais adoré. Et là, j'ai ce sentiment d'immersion et ce ressenti qu'aucun autre jeu ne me permet d'avoir, en fait. Et donc, ça garde ce côté, ça reste une aventure à part, quoi qu'il arrive, hein.
Okay. C'est marrant que tu parles de ventre mou parce que, est-ce que l'extension, celle-là, la Phantom Liberty, est pas censée s'imbriquer dans la quête principale du jeu de base? Pour combler ou alimenter un peu un ventre mou qu'on aurait pu désigner sur 2017. Et là, c'est comme s'ils avaient dupliqué avec un scope plus petit. Mais toujours ce petit ventre mou au milieu.
C'est ouais. Et en fait, ils font comme dans le jeu de base. Je sais pas si tu te souviens, c'est que des fois, tu finis une quête et dis, écoute, là, je te rappelle dans 2 jours pour la suite. Alors, tu peux artificiellement passer ces 2 jours en allant dormir ou en avançant le temps. Mais c'est que le jeu lui-même te dit, c'est bon, fais une pause là-dessus, goûte à autre chose. Et une fois que t'auras avancé sur d'autres trucs, cette quête-là va revenir.
D'accord.
Et t'as même des moments dans l'extension où, t'as un petit gap un peu et t'es un peu livré à toi-même et ça marche très très bien dans le scénario, mais c'est fait aussi pour être panaché avec autre chose.
En fait, c'est fait pour être peut-être fait dans le jeu et au milieu de ton extension Phantom Liberty que tu repartes dans 2077 peut-être pour un petit peu
panacher. Ou faire les quêtes annexes de Phantom Liberty ou alors revenir effectivement dans Night City global parce que tu peux naviguer facilement de l'un à l'autre, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que j'ai avancé dans des quêtes annexes que j'avais pas fini à l'époque de l'aventure principale. Donc, tu peux vraiment te panacher ton expérience. Et pour le coup, t'as certains, si les quêtes annexes sont pas ultra dingues, je trouve, t'as quelques contrats avec Mr. Hands, je sais pas, un PNJ important, qui pour le coup sont vraiment souvent assez marrantes et tout, que je conseille de faire.
Ok. Bah écoute, ça fait plutôt envie, en plus 2117, moi c'est un jeu que j'avais adoré, donc à l'occasion, bah, j'hésiterai pas à m'essayer à Phantom Liberty. N'hésitez pas, nous balancer, donnez-nous, parlez-nous de votre expérience sur ce 117 et Phantom Liberty. Il est temps bah, de vous, nous remercier de votre fidélité, de tous les likes, des pouces que vous mettez, des notes toujours pareilles sur les plateformes d'écoute.
Ça grimpe, c'est cool.
Ça nous aide beaucoup. Il est l'heure de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo. Et sachez que si vous aimez nous écouter, peut-être vous allez aimer nous lire. Et ça tombe bien parce qu'il y a quand même pas mal d'actu autour de la maison d'édition, Nico. Gisèle.
T'as un chapeau magique. Non,
Gisèle.
C'est pas.
Dans le téléachat.
C'est Maryse.
C'est qui Gisèle alors ?
Ça doit être ta tante, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé chez Sœurd ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Premier livre. Alors là, voilà, on balance un truc aujourd'hui. C'est mon mot fétiche, on balance. C'est la sortie de tous nos livres d'octobre, là, en début du mois. Comme ça, voilà, vous pouvez faire vos courses, parce qu'on a quand même pas mal d'actu. Noël approche. Premier livre sur Undertale, les coulisses et l'analyse du jeu Undertale, par Coco B, voilà, Corentin Benoît Gonin. Mm-hmm. Donc,
je culte s'il en est.
Shadow Drop. On a eu ça. Attends, après ça, événement quand même, on a le bouquin Harry Potter des frères Torres,
ouais.
Lucas et David, qui nous livrent une grande analyse sur la narration d'Harry Potter, plus articulée sur les livres, un petit peu sur les films, mais là...
Beau boulot. Donc ça, c'est les deux couves First Print, hein, mais vous avez les couves classiques qui traînent. Voilà. Et oh là là, elles sortent du chapeau magique. Gisèle, les couves, montrez-les.
Gisèle, ça, c'est les couves classiques que vous pouvez trouver dès aujourd'hui,
ouais,
en librairie.
Et honnêtement, c'est pas pour faire les beaux, mais elles sont ultra classe. On dit ça parce que c'est pas nous qui les avons fait, évidemment. Hein, mais...
Donc, tu sais que si tu achètes l'édition First Print, au verso de la jaquette, le mec ne travaille dans l'édition, au verso de la jaquette, tu peux avoir les deux, l'autre couverture.
Tout à fait, c'est quand même bien pensé, moi.
C'est quand même pas mal fait. Hein. Ouais. Donc voilà, pour ce qui est du versant édition de Sœurd, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a aussi un nouveau Ludothèque sur Fruit Basket. Ludothèque, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est que si au moment où tu deviens premium, au moment où tu achètes 5 livres sur le site, un petit peu, ben voilà, pour vous fidéliser, pour vous récompenser, de nous aider, de d'acheter en direct sur le site, on vous offre un livre qui est écrit et produit exclusivement pour vous. Donc c'est pas un truc voilà comme ça, c'est fait uniquement pour nos premiums.
On peut pas se procurer autrement. Hein.
Et donc là, il y a Fruit Basket, et sachez aussi qu'il y a un Ludothèque Batten Gaitos.
Ouais, voilà, si ça, tu as donné envie à tout le monde et vous voulez pousser un peu l'expérience, et écrit justement par Jay, dont tu parlais dans ta chronique, voilà, donc tout se recoupe.
Tout se recoupe, et dernière actu, retour du livre Silent Hill de Damien Meschery et Bruno Provezza dans une édition luxe qui sera parfaitement en harmonie avec vos autres livres Sœurd, c'est-à-dire une couverture cartonnée, etc., etc.
Le contenu reste le même, pas d'inquiétude, mais voilà, c'est pour l'ajuster, couverture cartonnée, papier un peu plus quali. De quoi passer l'épreuve du temps de manière plus sereine.
Vous êtes restés avec nous jusqu'à maintenant. Vous avez pris ce tunnel d'achat, Maryse et Gisèle. Mais voilà, maintenant, vous voulez savoir ce qui va se passer dans Red Alert la semaine prochaine. Et je me tourne vers toi parce que je crois qu'on a même nos sujets.
Alors oui, selon l'actu, si elle nous laisse tranquille, parce que c'est qu'il y a du Mario, il y a du Spider-Man et tout qui arrive.
Ouais.
Mais normalement, moi, je vous parlerai. Voilà. Alors, on enregistre jeudi. Selon les rumeurs, demain sera entériné, une bonne fois pour toutes, le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard. Et donc, la chronique, ce sera un peu de se dire, ok, et maintenant, quoi. Maintenant, voilà, ça y est, plus de 20 mois de tergiversation, de mystère, machin. Maintenant que c'est fait.
Qu'est-ce qu'il en est,
s'attendre pour demain? Et je pense que ça sera aussi l'occasion de faire un petit tour du côté de chez Sony aussi, avec le changement, avec le départ de Jim Ryan. Faire un peu le point où en est PlayStation. Donc voilà, un petit peu le point sur les deux gros acteurs de la guerre next-gen. Presque à mi-chemin des générations, quelque part.
Ça bouge, et pour ma part, ça sera une chronique sur le jeu Cocoon. Cocoon, ça part en coup de cœur.
Oh là là,
j'ai ultra kiffé Cocoon, donc voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine, toujours pareil, si l'actu nous laisse tranquille, mais je pense que ça sera le cas, j'ai craqué complet il y a la semaine dernière sur Spider-Man. Donc voilà, ça
Cocoon,
sera...
Cocoon, jeu de réflexion...
Ouais, vous verrez, je ne sais pas, je vous en dis pas plus, on va revenir la semaine prochaine.
Il y a eu beaucoup de jeux de réflexion cool cette année.
On réfléchit. On vous remercie encore pour votre fidélité, et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye.